Aujourd'hui, nous arrivons au septième propos dans notre série « Vivre bien, vivre différemment », une série sur l'éthique chrétienne. Ce matin, nous abordons le mariage et la sexualité. Nous avons fait plusieurs messages l'année dernière sur le thème du mariage et de nos relations familiales. Encore, ces messages sont disponibles sur le site web de l'Église, et donc je ne vais pas redire aujourd'hui tout ce que j'ai dit à ce moment-là. Sans doute vous en souvenez tous parfaitement. Mais au cas où vos souvenirs seraient un peu vagues, je vous rappelle tout simplement comme point de départ que la Bible envisage le couple marié comme une équipe en mission pour Dieu, et qu'au sein de cette équipe, il y a une égalité parfaite et des rôles différents. Je vous rappelle aussi que le mariage, selon la Bible, est une alliance entre trois personnes, non pas deux mais trois, l'époux, l'épouse et Dieu. C'est une alliance sacrée. Et c'est pour ça que Jésus dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, parce que c'est lui la troisième personne dans le mariage, qui unit les deux autres. Nous allons revoir certains de ces principes aujourd'hui, mais puisque cette année nous nous focalisons surtout sur les questions éthiques, nous allons les aborder sous l'angle de la sexualité, particulièrement son importance, ses limites et son but. Comme nous le verrons, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et c'est justement le fait qu'il peut être des fois très sensible qui fait que nous avons besoin d'en parler avec franchise et j'espère avec compassion. Quand nous pensons à la sexualité, c'est aussi particulièrement important que nous gardions à l'esprit cet appel que nous avons dans la parole de vivre bien et donc différemment du monde non chrétien. Car peut-être plus que tous les autres sujets que nous avons vus, le mariage et la sexualité est un domaine où le monde nous enseigne constamment à vivre d'une manière et la Bible d'une manière complètement différente. Et pourtant, malheureusement, on constate souvent très peu de différences entre les attitudes du monde et celles des croyants, ou ceux qui se disent croyants, vis-à-vis de la sexualité et du mariage. Regardons donc ce que la Bible en dit. Et comme nous avons vu souvent dans cette série, la fondation de ce que la Bible en dit se trouve dans les premiers chapitres de Genèse. Lisons donc Genèse 2, versets 18 à 23. Genèse 2, 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. » Voilà la fondation de la sexualité biblique. Vous avez peut-être noté que ce passage ne parle pas directement de l'acte sexuel. Il évoque plutôt la relation entre l'homme et la femme en tant que tels, deux êtres sexués, c'est-à-dire deux êtres qui sont différenciés par leur sexe, l'un masculin et l'autre féminin. Quand on regarde ce rapport entre l'homme et la femme dans ce passage, il y a trois idées qui en ressortent. L'égalité, la différence et l'unité. L'égalité parce qu'ils sont tous les deux humains, l'un le vis-à-vis de l'autre. La différence, parce qu'ils sont tous les deux sexués, hommes et femmes. Et l'unité, parce que par le mariage, ces deux personnes égales mais différentes se rejoignent et deviennent qu'un seul. Alors, nous avons beaucoup insisté cette dernière année sur le fait que la différence entre l'homme et la femme, que ce soit dans la famille ou dans l'église, que la différence ne signifie pas l'inégalité. Je ne vais pas donc en dire trop, sauf pour répéter une phrase que j'ai lue récemment sur ce passage et qui résume bien cette idée. Ève a été tirée de la côte de l'homme pour que les deux soient côte à côte. C'est là tout le sens du vis-à-vis dans ce passage. C'est l'image de l'égalité parfaite, l'homme et la femme côte à côte. En même temps, ce fait d'être tirés l'un de l'autre souligne aussi leur différence, leur séparation même. Ici, l'humanité est divisée en deux, et les deux parties ne sont pas identiques. Elles sont différentes et complémentaires. Une humanité qui consistait uniquement d'hommes ou uniquement de femmes, ça ne serait pas une vraie humanité. Et la belle et frappante image que nous avons dans ce passage, c'est qu'après cette division, il y a aussi la réunification de ces deux côtés. Et en étant unis, l'homme et la femme ensemble deviennent quelque chose qu'Adam n'était pas quand il était seul. Le tout est plus grand que la somme des parties, parce qu'ils sont une équipe. Et leurs différences combinent et se complémentent pour former un nouvel être, un couple qui est une seule chair. Et notons bien que ce n'est pas deux choses identiques ou même semblables qui s'unissent pour devenir un. Le mariage n'est pas fait de deux hommes, ni de deux femmes, mais d'un homme et d'une femme. C'est deux personnes très différentes et complémentaires. D'où la difficulté et d'où la beauté. Dans un sens, on peut donc dire que l'un complète l'autre comme deux pièces d'un puzzle. Mais là, quand on parle de compléter l'autre, il faut aussi faire attention. Je ne sais pas combien d'ici et combien ici auraient vu le film américain des années 90, Jerry Maguire, avec Tom Cruise. Mais dans ce film romantique, il y a une scène vers la fin où le personnage principal dit à sa femme « Je t'aime, tu me complètes ». Et puis, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et je me souviens, à l'époque, j'avais à peu près 20 ans, moi et mes amis, nous avons vu ça, et tout le monde disait « Ah oui, oui, c'est beau ça. J'aimerais trouver quelqu'un comme ça, quelqu'un qui me complète, qui me rendrait entier. » Parce que c'est vrai, nous avions tous l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait en nous. Mais depuis lors, petit à petit, Sheila et moi avons constaté une autre réalité dans notre mariage. Et aussi dans le ministère où nous avons rencontré beaucoup de couples en difficulté. Et c'est qu'une personne ne peut jamais vraiment compléter une autre personne. Deux personnes incomplètes ne peuvent jamais se compléter l'un et l'autre. Ils resteront simplement deux personnes incomplètes. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Si vous n'êtes pas encore marié, ou même si vous l'êtes, si vous n'êtes pas déjà complet, entier, la personne en face ne va pas vous compléter. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut nous compléter. Qu'est-ce que nous voulons dire donc quand nous disons en Genèse, qu'en Genèse nous avons l'image de l'homme et de la femme comme deux moitiés de l'humanité qui s'unissent pour se compléter? Nous voulons dire tout simplement que sur cette terre, les hommes ont besoin des femmes. Et les femmes ont besoin des hommes pour que nous puissions ensemble être l'image de Dieu sur terre. Nous devons dépendre les uns des autres pour unir les deux moitiés de l'humanité, qui ne sont pas semblables. Parfois ce sera dans nos couples. Parfois c'est tout simplement le fait de faire partie d'une famille spirituelle qui inclut les hommes et les femmes. Et quand nous le faisons bien dans notre couple, un homme entier et une femme entière en relation avec Dieu, nous créons ensemble quelque chose de complètement nouveau, un nouveau être. Alors, si la Genèse nous montre que l'humanité est constituée de ces deux parties qui sont égales mais différentes, et qui doivent travailler ensemble, soit dans un couple, soit tout simplement en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça nous rappelle que notre sexualité va bien au-delà de notre activité sexuelle. Elle est profondément enracinée dans notre être. Même sans relation sexuelle, nous sommes tous très très marqués par notre identité en tant qu'homme ou en tant que femme. Et cette identité touche notre âme et notre esprit autant que notre corps. Si j'ai le cœur d'un homme, j'ai aussi l'âme et l'esprit d'un homme. Ce ne sont pas les mêmes que ceux d'une femme. Mais il y a de la confusion par rapport à ça dans notre culture. On entend maintenant que mon identité en tant qu'homme n'est pas quelque chose d'essentiel en moi, mais plutôt quelque chose que je choisis et qui pourrait changer pendant ma vie. Et que finalement, il n'y a pas de vraie différence entre homme et femme, mais juste une gamme de possibilités entre lesquelles je peux choisir. Mais cela n'est pas la notion biblique des choses. Dieu n'a pas créé des êtres hermaphrodites ou androgènes. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a créé l'homme et la femme pour être son image sur terre. Et nous avons besoin des deux. Respectons donc les deux et ne cherchons pas à faire comme s'il n'y avait pas de différence. Bien sûr, en parlant des différences, il ne faut pas aller à l'autre extrême et stéréotyper l'homme et la femme. Le fait que ma fille, par exemple, elle veut jouer au foot, ça ne signifie pas qu'elle est un garçon manqué, comme certains le diraient. Et quelle expression malheureuse! Ça signifie tout simplement que les gens devaient peut-être élargir leur idée de ce que c'est un garçon ou qu'une fille. Les gens sont des individus et il y a beaucoup de façons d'être homme et comme il y a beaucoup de façons d'être femme, mais ça ne veut pas dire que ces catégories n'ont pas d'importance. Au contraire, ils sont au centre de ce que ça veut dire d'être humain. Voilà donc la base de notre sexualité. Nous sommes tous des êtres sexués. Mais dans la parole, les actes sexuels, c'est-à-dire les actes qui impliquent l'aspect sexuel de notre corps, ces actes sont limités à un cadre très précis, celui du mariage. Et là, nous arrivons à un autre domaine où la culture du monde nous résiste. Tout ce que nous voyons autour de nous nous enseigne qu'il ne faut pas se limiter comme ça, que ce sont des idées rétrogrades, qu'il faut au moins être réaliste et admettre qu'on ne peut pas résister. Mais ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des idées rétrogrades. C'est une sagesse ancienne et éternelle. Un commandement qui se base justement sur ce que nous venons de voir. Le fait que se donner physiquement à quelqu'un est un acte qui implique tout notre être. Et donc le cadre établi par Dieu pour cet acte, c'est le mariage. La Bible en parle à plusieurs reprises. Mais voilà ce qu'en dit la première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son cœur, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son cœur, mais sa femme. Alors, notons plusieurs choses par rapport à ce texte. D'abord, la phrase « toute immoralité sexuelle » signifie toutes sortes d'activités sexuelles en dehors du cadre du mariage. C'est-à-dire d'abord avant le mariage, même avec la personne avec qui on pense se marier, et puis lorsqu'on est marié, tout ce qui est en dehors de la relation entre soi-même et son époux ou son épouse. Le sens de ce passage est simple. La sexualité existe pour être partagée, et ça avec une seule personne. Voilà pourquoi Jésus dit dans le serment sur la montagne, par exemple, que ce n'est pas suffisant simplement d'éviter l'adultère. Il faut aussi rejeter la convoitise. Car quand on convoite, on vit dans sa tête et dans son cœur quelque chose qu'on devrait partager qu'avec son époux. Nous pensons des fois que ce qui se passe dans notre tête n'a pas d'importance, mais ce n'est pas vrai. Quand une personne se marie, son cœur ne lui appartient plus. Et ça implique toute sa sexualité, même la partie qu'il garde dans sa pensée. On ne peut pas devenir un avec une autre personne et puis garder une petite partie pour soi-même. C'est une tentation, bien sûr, surtout à cause de tout ce qu'on peut trouver de nos jours à la télévision et l'ordinateur. Mais même sans ces choses-là, c'est toujours une tentation de garder une partie de sa sexualité de l'autre, parce que c'est plus simple. Franchement, la relation entre l'homme et la femme est compliquée. Et l'aspect sexuel ne l'est pas moins que le reste. Il est peut-être plus. Mais encore, c'est ça l'idée du mariage. Que deux personnes tellement différentes se donnent si complètement l'un à l'autre qu'elles arrivent à être un, malgré les défis. Mais restez dans sa tête, que ce soit à l'égard du sexe ou d'autres choses qu'on devrait partager. Rester dans sa tête signifie qu'on fuit l'autre. Qu'on fuit l'effort nécessaire afin d'être vraiment un. Mais la sexualité biblique est un appel à se partager avec une autre personne et avec cette personne seule, afin d'être un à tout égard. Comment appliquer ces limites alors? Je vous donne trois applications générales. D'abord, j'aimerais dire très clairement que ce passage n'oblige pas ni à un mari ni à une femme de subir l'abus. Certes, se donner mutuellement peut être difficile. Mais ici, nous avons la description d'un partage qui, même s'il est difficile, est réciproque. Par contre, lorsque ce partage est abusé, lorsqu'il fait mal, lorsqu'il n'est pas volontaire, lorsqu'il est dégradant, soyons clairs que ce n'est plus un partage, c'est de l'abus. Et à ce moment-là, celui qui est abusé a le droit de dire non et de chercher de l'aide, surtout si ça continue. Des fois, même, il faut chercher l'aide des autorités civiles. Romains 13. Rappelons-nous que si le Seigneur veut que nous donnions notre cœur à notre époux ou notre épouse, ce cœur n'appartient pas qu'à lui. Il appartient aussi et surtout au Seigneur. Il est le temple du Saint-Esprit. Il a été racheté à un si grand prix. Non pas pour être abusé, mais pour être aimé par celui qui l'a racheté. Tu appartiens au Seigneur. Et quelqu'un qui utiliserait ce passage pour dire à une femme qu'elle doit subir l'abus de son mari, il blasphème. Sachez donc que si vous avez vécu ce genre de choses, ou si vous vivez ce genre de choses, ou si vous connaissez quelqu'un qui le vit, le Seigneur est là et cette Église est là pour vous aider. Et personne ici va te dire qu'il faut le vivre en silence, qu'il faut subir l'abus. Ce passage ne justifie pas le contrôle l'un de l'autre. Au contraire, le commandement est parfaitement réciproque. On se donne avec affection l'un à l'autre. Deuxièmement, alors, dans le cadre d'un couple marié, c'est à chaque couple de découvrir comment vivre ce partage. Mais l'essentiel est le respect à l'autre et la volonté de se donner. La parole est claire, verset 3, c'est un besoin des deux côtés. Mais pour ça, il faut cultiver une atmosphère d'amour où chacun puisse s'exprimer honnêtement et être vulnérable sans honte. Si Adam et Ève n'avaient pas d'honte avant la chute, depuis la chute, nous sommes tous remplis de honte. Ça fait partie de l'expérience humaine maintenant. Et donc ce n'est pas facile de se dévoiler émotionnellement à un autre. Mais c'est exactement ce qui devrait se passer dans un couple. Et ce dévoilement émotionnellement est symbolisé par le dévoilement de son cœur dans la présence de l'autre. Voilà l'une des raisons que Dieu limite le sexe au cadre du mariage. Parce qu'en tant qu'alliance permanente, le mariage crée un lieu de sécurité dans lequel on peut se dévoiler émotionnellement et spirituellement sans avoir peur que l'autre va s'enfuir. Et c'est aussi dans ce cadre donc qu'on peut se dévoiler physiquement. Parce que les trois vont ensemble, le cœur, l'âme et l'esprit. Et il ne faut pas essayer de se dévoiler physiquement sans se dévoiler émotionnellement et spirituellement. Sinon, vous allez vous déchirer. Finalement alors, pour ceux qui ne sont pas mariés, mais qui ont eu des relations sexuelles quand même, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, bref, la volonté de Dieu est que vous vous arrêtez. Ça peut sembler difficile, et ça peut l'être, mais ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a plein de gens qui l'ont fait avec son aide. Ce n'est pas impossible, mais il faut vouloir le faire. Pour Dieu, pour vous-même, pour votre partenaire et pour votre futur époux. Il faut aimer ces personnes suffisamment pour vouloir le faire. Et puis, il faut s'appuyer sur Dieu pour avoir la force pour le faire. Deuxièmement, il faut dire aussi qu'on peut se trouver dans des situations très compliquées. Surtout lorsque des enfants y sont concernés. Et dans ces cas-là, j'aimerais vous dire que les responsables de l'Église, nous reconnaissons que ces situations ne sont pas faciles et que des fois, il faut chercher la sagesse de l'esprit pour savoir exactement comment agir par rapport à telle ou telle situation. Et nous sommes là pour ça, pour prier avec vous et pour chercher la face de Dieu ensemble. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que Dieu ne veut pas que vous ayez de relations sexuelles en dehors du mariage. Et si c'est votre cas, il veut que vous régliez la situation pour le bien de tout le monde concerné. Je suis conscient que ce n'est pas une parole facile pour certains, mais c'est la parole quand même, et ça vaut la peine de lui obéir. Troisièmement, si c'est votre cas, il ne faut jamais oublier que Dieu est un Dieu de grâce, de pardon et de restauration. Parfois, on ne change pas parce qu'on pense que c'est trop tard, qu'on est allé trop loin. Mais peu importe ce qu'on a fait, Dieu peut nous restaurer, il peut nous guérir et il peut nous pardonner. Il veut nous pardonner. Parfois, on ne vient pas à lui parce qu'on a honte. Nous savons que nous avons besoin de Dieu pour changer, mais nous ne voulons pas aller vers lui parce que nous avons honte de ce que nous avons fait. Et si c'est votre cas, soyez rassurés. Dieu n'est pas dérangé par votre honte. Il vous invite à la laisser à la porte et à courir vers lui. Le fait que notre honte nous empêche parfois d'aller vers notre Père qui nous aime, c'est la victoire la plus maligne et tragique de Satan. Ton Père n'est pas perturbé par ta honte, car il a déjà réglé à la croix de Jésus il y a 2000 ans. C'est fini! Et donc, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se dire, je vais continuer comme ça encore un peu de temps. Et puis, je demanderai pardon. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en général, si tu penses comme ça, ça veut dire qu'en fait, tu te moques de Dieu et de sa grâce. Mais en plus, il faut savoir que ces choses ont des conséquences réelles. Et le plus de temps que vous passez sans les régler, le plus important seront les dégâts. Je suis dans le ministère d'une forme ou autre depuis presque 20 ans et j'ai vu les dégâts qu'on attire sur soi-même lorsqu'on prend ces choses à la légère, lorsqu'on pense savoir mieux que Dieu. Et c'est de la folie de se dire, comme certains le font, « Bon d'accord, c'est un risque, mais si ça va mal, Dieu peut me restaurer. » Le pasteur vient de le dire, pas de souci alors. Je vais le faire et puis je laisse Dieu le réparer. Et c'est vrai que peu importe ce que tu as fait, Dieu peut te restaurer. Mais ça ne veut pas dire qu'en le désobéissant, tu ne vas pas encourir tout un tas de souffrances. Au contraire, le chemin de la restauration est souvent semé de souffrances et de difficultés. Et c'est de la folie pure de se dire, je vais faire ce que je veux maintenant et puis Dieu va me pardonner. C'est de se moquer de Dieu, ça. Et c'est d'oublier les profondeurs en nous qui sont touchées par notre sexualité. Ce n'est pas un jeu. Arrêtons de jouer avec et remettons-la entre les mains de notre Père. Mais alors, si ce n'est pas un jeu, qu'est-ce que c'est alors le sexe? À quoi ça sert? Vous allez vous dire que c'est évident peut-être, mais voyons ce que la Bible en dit. Le premier but du sexe selon la Bible, c'est la reproduction. Multipliez-vous, Dieu dit. Et là, je vous rappelle tout simplement quelle grâce nous avons de pouvoir participer de cette manière au projet de Dieu pour son monde. Dieu aurait pu créer les êtres humains, chacun individuellement, sans besoin d'un autre être humain. Il aurait pu nous sortir chacun de la terre, comme il a fait pour Adam. Mais au lieu de ça, il a fait en sorte que nous puissions participer dans ce processus de donner la vie aux autres êtres humains. Et ça, non pas seul, comme une bactérie qui se divise en deux pour se reproduire, mais en couple. Une équipe qui s'unit pour donner la vie à un autre être humain. C'est une grâce énorme. Mais alors, restons toujours conscients aussi que nous n'avons pas tous reçu cette grâce dans la vie. Il y en a parmi nous qui souffrent à cause de ça. Si c'est votre cas, sachez que Dieu veut vous combler de grâce quand même, par sa présence. Une présence qui n'efface pas la douleur, mais qui vous accompagne là-dedans. Et sachez aussi que vos frères et sœurs en Christ sont là pour vous soutenir et pour pleurer à vos côtés lorsque vous pleurez. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, si cette participation au projet de Dieu est l'un des buts du sexe, il faut reconnaître qu'il existe aussi pour notre plaisir, un plaisir partagé qui soude un couple. Encore, vous vous dites peut-être que c'est évident. Mais sachez bien que la Bible aussi est claire là-dessus. Elle le célèbre même. Et pourtant, il y a des chrétiens qui parlent comme si c'était un crime de prendre plaisir dans une telle chose. Mais ça, c'est encore la philosophie grecque qui parle et non pas la Bible. Si vous êtes dans le doute par rapport à ça, même après avoir lu 1 Corinthiens 7 qui évoque l'importance de se donner l'un à l'autre, il faut lire Proverbe 5:19 où Dieu dit au mari « Enivre-toi sans cesse de l'amour de ta femme ». Et il suffit de lire le reste du passage pour être sûr qu'il parle bel et bien du sexe. Ou bien lire le Cantique des Cantiques, l'un des plus beaux poèmes d'amour qui existe dans le monde. Ce poème célèbre le plaisir du sexe à un tel point que certains chrétiens n'ont pas voulu croire que Dieu mettrait ce genre de poème dans sa parole. Et ils ont donc argumenté que ce livre n'est qu'une image de l'amour entre Dieu et son peuple. Et certes, on peut le lire comme ça aussi. J'y reviens dans un instant. Mais à la base, le Cantique des Cantiques reste un poème d'amour écrit en termes très physiques. Parce que le sexe et le plaisir qu'il peut donner sont quelque chose à célébrer. Et si Dieu a comparé ce genre de relation passionnée avec sa relation avec nous, c'est encore une autre raison pour croire que le sexe est quelque chose de beau et de sacré même, s'il est digne d'être comparé à l'amour que Dieu a pour nous. Et justement, c'est ça le dernier but du sexe. Si le sexe existe pour la reproduction et pour le plaisir d'un couple, il existe aussi pour symboliser l'amour de Dieu pour nous. Parce que dans un amour réciproque et sacrificiel entre l'homme et femme, comme nous le voyons en 1 Corinthiens 7, nous avons un petit aperçu du vaste amour que Dieu a pour nous. C'est pour ça que nous lisons en Éphésiens que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et dans les évangiles que Jésus est appelé l'époux qui revient pour son épouse. Et encore en Apocalypse où l'Église est décrite comme l'épouse qui s'est faite belle pour son époux. Jésus a littéralement donné son cœur pour sauver son époux, l'Église. Et en retour, l'Église, nous sommes appelés à donner notre cœur à lui comme un sacrifice vivant pour que son esprit nous habite. C'est l'invitation magnifique que nous avons reçue du Père, une invitation qui dépasse tout autre. Je me souviens bien le moment où j'ai fait ma demande en mariage à Sheila. Nous faisions un pique-nique dans les forêts de Pennsylvanie. Et sauf si je me trompe, Sheila était très émue au moment où j'ai posé la question. Moi aussi, j'étais très émue. J'avais du mal à prononcer les mots. Mais c'était presque rien comparé à l'invitation que Dieu offre à chacun de nous. C'est vrai que l'amour entre homme et femme peut être merveilleux. Mais même le couple le plus amoureux qui soit n'a qu'un petit reflet de ce que Dieu nous offre. Mais pour cet amour que Dieu nous offre, pour avoir cet amour que Dieu nous offre, il faut l'accepter. Il faut mettre ta foi en Christ, l'époux parfait. Si tu n'as jamais fait ça, je t'encourage à le faire cette semaine, aujourd'hui même. Et pour nous tous, je vous encourage à vous souvenir de cet amour immense que Dieu vous offre. Si tu es célibataire, tu n'es pas seul. Tu as la famille de Dieu autour de toi. Et tu as l'époux parfait, Jésus-Christ, à tes côtés. Et peu importe ce que tu as fait jusqu'ici, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe la honte que tu traînes derrière toi, Jésus-Christ est un époux plein d'amour. Et il peut te restaurer. Il veut te restaurer. Il veut couper les chaînes de la honte et guérir ton âme. Et si tu es marié, c'est ce même Jésus qui peut te compléter. Ce n'est pas ton mari ou ta femme qui va le faire. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et c'est aussi lui qui peut restaurer ton couple et en faire une vraie équipe. Mais pour ça, il faudra chercher le Seigneur et son amour parfait et sa volonté parfaite avant toute autre chose. Il t'attend, il nous attend, chacun. Il nous connaît et il nous aime. Peu importe notre passé, peu importe la situation devant nous, le Seigneur nous attend avec bras ouverts. N'attendons pas. Amen.